Le journal est présenté par Régis Cerf.
Bonjour, la chaleur de plomb et la sécheresse, deux ennemis des forêts jurassiennes. Les arbres souffrent en silence en cette période surchauffée. Les hêtres sont particulièrement sensibles à cette situation. Un conseiller fédéral omniprésent cette semaine, Martin Pfister, était sur tous les fronts, des prestations plus ou moins convaincantes, décryptées par notre correspondant parlementaire dans sa chronique sous la coupole. Le championnat de Suisse de cyclisme sur route sera cet après-midi à Courtetel, bien évidemment. Marlène Reusser aura de la concurrence avec une quarantaine de coureuses sur une boucle de 17 km à parcourir 6 fois. Des cyclistes qui courront sous la canicule jusqu'à 38 degrés attendus cet après-midi en plaine, 33 aux Franches-Montagnes, quelques orages sont possibles. Un incendie s'est déclaré à l'intérieur d'une fabrique à Saint-Imier la nuit dernière. Un important dégagement de fumée, visible loin à la ronde, a été constaté par les habitants. Personne n'a été blessé, une enquête a été ouverte. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis d'empêcher la propagation au bâtiment voisin. Personne ne se trouvait dans la fabrique, le bâtiment a subi d'importants dégâts. Il est actuellement inutilisable. Plus de 38 degrés hier dans le Jura et peut-être encore plus aujourd'hui. Dans les forêts jurassiennes, le temps des derniers jours fait beaucoup de mal aux arbres qui caractérisent notre paysage et qui ont déjà été bien touchés par les changements climatiques des dernières années. La verdure que l'on peut observer en forêt en ce moment est trompeuse. La végétation souffre, en particulier les hêtres et les sapins blancs, nombreux dans la région. Pour le garde forestier du triage du Mont-Terrible, Dominique Val, une sécheresse conjuguée avec les fortes chaleurs est particulièrement ravageuse.
Le cocktail des deux est explosif parce que lorsqu'on a des canicules dans des sols qui ont été largement approvisionnés en eau, les arbres arrivent à résister à ça. Il y a toujours quelques dégâts, mais ça reste épisodique. Par contre, quand on ajoute une canicule à des précipitations qui sont faibles depuis déjà plusieurs mois, c'est le cocktail explosif et là, on peut craindre des conséquences plus importantes que seulement, entre guillemets, une canicule.
On imagine que ça a de l'impact sur tous les arbres, mais quelles sont les essences qui sont principalement problématiques actuellement ici en Ajoie?
Alors le hêtre, évidemment, hein, très problématique, on en parle depuis plusieurs années. Le hêtre est une essence qui est sensible à la chaleur, sensible également au sec. Donc c'est vraiment le hêtre qui souffre beaucoup. Les résineuses souffrent bien sûr également, mais nous n'avons presque plus d'épicéas qui posaient beaucoup de problèmes, notamment avec les sécheresses et le bostriche qui arrivait derrière. Et aujourd'hui, ce sont vraiment les feuillus qui nous inquiètent, et également le sapin blanc qui lui est encore bien présent, mais qui souffre aussi de la sécheresse et non pas de la canicule.
Et si les effets sur les arbres sont à peine visibles au sommet de quelques arbres en ce moment, ils se verront plus franchement en fin d'été et durant l'automne. Ça se déroule souvent en forêt, mais pas uniquement. La course d'orientation prend une nouvelle dimension dans le Jura. Une association vient de se créer et organisera demain à Basse-Cour sa première manifestation. L'ACO Jura, pour Association Jurassienne de Course d'Orientation, sera membre de la Fédération Suisse à partir de l'année prochaine. Toutes les régions de Suisse seront ainsi représentées. L'ACO Jura veut développer ce sport et réunit un comité d'amoureux de la course d'orientation. Son président, Patrice Echemin.
On est une équipe de gens qui pratiquaient déjà la course d'orientation, puis on a, dans le canton du Jura, aucun cadre, aucune structure qui organise ou qui fédère ou qui incite à faire de la course d'orientation. Donc on a trouvé juste et bien de le faire dans le canton du Jura et de créer une nouvelle association qui veut rassembler tous les membres possibles.
Donc là, vous êtes déjà une petite équipe de passionnés qui lance ça?
C'est vraiment ça, hein, c'est des passionnés. On collabore aussi avec des collègues du Lofonnais ou de Neuchâtel et puis dans le Jura. Il y a des initiatives privées, il y a quelques clubs qui faisaient déjà de la course d'orientation, mais il n'y a pas une structure pour fédérer tout ça.
Dans le Jura, ce n'est pas forcément ce dont on parle le plus. Comment se porte la course d'orientation dans le Jura, mais peut-être aussi un peu au-delà de nos frontières cantonales?
Alors en Suisse, elle se porte très bien, hein. C'est un sport d'élite de très haut niveau, très bien structuré. Au Jura, on est un peu au début, hein. C'est plutôt quelques individualités, quelques personnes qui aiment ça. C'est un sport qui se pratique très bien en famille, avec des enfants, donc on souhaite vraiment aussi développer ce sport dans notre canton.
La première course d'orientation organisée par l'ACO Jura est prévue demain matin, départ entre 8h et 11h à côté du cimetière de Basse-Cour. Pas moins de 7 parcours, du plus familial au plus difficile, sont proposés. Il sera encore possible de s'inscrire sur place. Le PLR veut construire la Suisse de demain. Lors de l'Assemblée des délégués aujourd'hui à Soleur, la direction conjointe du Parti libéral radical suisse a exigé des réponses plutôt que des slogans. Le PLR est le parti des solutions, a déclaré la coprésidente Suzanne Vincenz-Stauffacher. Les délégués se sont prononcés contre l'initiative sur la neutralité avec quelques voix dissidentes. Le texte est au programme des votations du 27 septembre prochain. Cette dernière semaine d'actualité fédérale a été marquée par l'hyper-présence du conseiller fédéral Martin Pfister. Le ministre de la Défense montre qu'il maîtrise son domaine de la défense et des sports un peu plus d'un an après son entrée au conseil fédéral, même si son discours n'est pas toujours très convaincant. C'est le sujet de la chronique sous la coupole de ce samedi avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Même au plus fort de la pandémie de Covid, Alain Berset n'était pas aussi souvent devant les médias. Cette dernière semaine, 15 mois après son entrée au Conseil fédéral à la tête du tourmenté département de la Défense, le centriste zougouin Martin Pfister a donné 4 conférences de presse pour le remplacement de Polycom comme système de communication officiel en Suisse, pour le soutien du Conseil fédéral aux Jeux Olympiques et surtout pour recentrer l'action de l'armée et pour défendre le besoin d'acheter davantage d'armement avec des prestations du ministre diverses. Il a été convaincant et offensif en rebattant les cartes de l'armée, en réduisant le nombre d'officiers supérieurs, en réorientant ses activités vers l'engagement contre les menaces actualisées. Martin Pfister.
L'armée sera ainsi mieux à même de faire face aux menaces hybrides, aux attaques à distance et à un conflit armé. Le premier changement consiste à orienter la doctrine et la structure de l'armée vers l'engagement. La Suisse sera divisée en 3 secteurs d'engagement militaire, chacun placé sous la responsabilité d'une division d'engagement. Chaque division est chargée d'assurer l'ensemble des missions dans son secteur.
Il convient de saluer aussi l'effort de Martin Pfister et de son staff de communication pour présenter systématiquement une partie de son exposé en français. Après avoir montré qu'il a bien pris les rênes politiques de la défense et de l'armée, Martin Pfister est toutefois retombé dans les travers de son département mercredi en tergiversant face au contrat d'achat aux États-Unis. Pas question de renoncer aux Patriotes qui interceptent les missiles et les drones, même s'ils seront livrés avec beaucoup de retard et coûteront beaucoup plus cher. Peu sérieux non plus d'annoncer vouloir acheter un autre système de défense solaire avec un accent européen, tout en pré-retenant des fournisseurs français, israéliens et sud-coréens. Et que dire de l'entêtement à vouloir financer un fonds de la défense avec une augmentation de 0,5% de la TVA, c'était 0,8% dans un premier temps, un projet financier morné, sans majorité au Parlement et selon les premiers sondages, sans majorité devant le peuple qui devrait se prononcer au premier semestre 2027. Martin Pfister veut pourtant y croire.
C'est clair, c'est pas facile d'expliquer cette augmentation, mais à l'autre côté, on n'a pas de choix si on veut améliorer la situation de la sécurité et surtout la situation de l'armée. Il faut avoir de l'argent et il n'y a pas d'alternative d'augmenter la TVA. Aujourd'hui, on n'a pas une majorité, mais je suis positif pour la possibilité de convaincre la population pour une augmentation pour la sécurité.
À moins que le ministre des Armées se profile aussi comme un fin stratège politique et mette la majorité bourgeoise du Parlement, zélé à augmenter les budgets pour l'armée, devant sa responsabilité à trouver aussi un financement, l'UDC et le PLR préféreront-ils l'endettement à l'augmentation de la TVA qu'ils rejettent, ou comme avec la 13e rente AVS, le pourrissement financier? Martin Pfister a dégoupillé la bombinette TVA et l'a habilement envoyée au Parlement.
Des frappes russes nocturnes ont fait 2 morts et plus d'une vingtaine de blessés en Ukraine, ont annoncé ce matin les autorités ukrainiennes. Des frappes de Kiev sur les territoires occupés et en Russie ont fait 1 mort et 10 blessés selon Moscou. Le Venezuela a restreint hier soir l'accès à la zone la plus touchée par les puissants séismes survenus mercredi. La catastrophe a fait au moins 920 morts selon le dernier bilan. 50 000 personnes sont toujours portées disparues.
12h24,
RFJ, sport.
Les meilleures cyclistes féminines de Suisse se disputeront la tunique rouge à croix blanche cet après-midi, Émilie Mumenthaler.
Et oui, les championnats de Suisse se poursuivent aujourd'hui à Courtaitel. La course des élites dames sera le point d'orgue de cette deuxième journée. Le peloton, composé d'une quarantaine de coureuses, s'élancera sur 102,3 km pour 1700 mètres de dénivelé positif dès 14h. Il effectuera 6 fois la boucle de 17,05 km tracée entre Courtaitel et Develier. février. Les athlètes rouleront sous un soleil de plomb sur les routes jurassiennes. Florian Wolfer, on vous retrouve en direct de Courtetel pour nous dévoiler les enjeux de la course des élites dames.
Et oui, bonjour à tous. Et vous l'avez dit justement, hein, c'est cette chaleur. Il faudra vraiment réussir à s'adapter à la chaleur pour réussir à remporter cette tunique rouge à croix blanche cet après-midi ici à Courtetel. Des températures qui pourraient monter jusqu'à 38 degrés ici sur les routes jurassiennes. Donc les 42 coureuses présentes dans le peloton devront vraiment réussir à se rafraîchir pour être le plus performante possible avec ces températures-là. Vous l'avez dit aussi, donc 102 km de course pour 1700 mètres de dénivelé positif. C'est 6 tours du parcours qui se situera entre Courtetel et Develier. Un parcours qui a été raccourci hein, également avec cette canicule. À la base, on devait faire 7 tours. On en fait finalement 6 aujourd'hui. Et parmi ce peloton de 42 coureuses, on peut vraiment dire qu'il y a 3 cyclistes qui se détachent pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Tout d'abord, Yasmin Lichti, la fribourgeoise qui a gagné le contre-la-montre de ses championnats de Suisse jeudi ici à Courtetel. Elle a également terminé 15e du Tour de Suisse le week-end dernier. Mais attention à Steffi Eberling également, la Turgovienne qui a terminé juste derrière Jasmine Lichti au contre-la-montre, deuxième, et qui elle est championne de Suisse en titre. Elle sera vraiment là pour conserver ce titre acquis l'année dernière, mais il faudra vraiment faire attention à l'ultra favorite du jour, Marlène Reusser, la bernoise de l'équipe Movistar qui a remporté justement ce Tour de Suisse aussi la semaine passée. Elle a fait l'impasse sur le contre-la-montre jeudi, elle s'était dite notamment cramée après l'épreuve du Tour de Suisse, mais si elle est dans un bon jour, si elle a retrouvé totalement ses compétences, c'est vraiment la grande favorite du jour ici à Courtetel. Elle a d'ailleurs remporté 3 victoires sur ses championnats de Suisse dans sa carrière en 2019, 2021 et 2023. Il faudra quand même aussi noter les deux grandes absentes de marque du jour. Élise Chabet et Noémie Rueg ne sont malheureusement pas là ici du côté de Courtetel. Mais malgré ces absences, on aura quand même du bon spectacle avec, on l'a dit, la grande favorite Marlène Reusser qui devra quand même faire attention à Steffi Eberlin et Yasmin Lichti.
Merci Florian. La course des élites dames sera à suivre en vidéo dès 14h sur notre site internet rfj.ch. On y reviendra déjà dans notre journal de 18h. Les championnats jurassiens et neuchâtelois de relais ont sacré leur champion. La 41e édition s'est tenue hier soir sur la piste d'athlétisme de la Blancherie. Dans la catégorie reine du 4x100 mètres qui s'est disputée pour la première fois en équipe mixte, c'est la FSGL qui s'est parée d'or. Le relais composé de Constantin Berger, Laura Gerber, Nathan Guiguer et Sambre Hoffmann a signé un chrono de 46 secondes 33. Et il a devancé les Neuchâtelois de Courtaillot et une autre équipe formée par leurs coéquipiers de la FSGL. Retrouvez tous les résultats en lien sur rfj.ch. La France a reporté le match au sommet du groupe I de la Coupe du Monde. Les footballeurs tricolores ont battu 4-1 la Norvège hier à Boston et terminent premier de la poule. Face à une équipe scandinave complètement remaniée qui avait laissé plusieurs titulaires au repos, dont l'attaquant Erling Haaland, le ballon d'or Ousmane Dembélé s'est offert un triplé en première mi-temps. Le joueur du Paris Saint-Germain garde la tête froide avant d'attaquer la phase à élimination directe avec un duel contre la Suède en 16e de finale. Ousmane Dembélé.
Oh, je suis content, c'est un moment unique et important pour moi. Je me sens très bien, que ça soit sur le terrain et avec l'équipe. Après, comme je l'ai dit, la performance est bonne, mais j'ai préféré mon match face au Sénégal ou face à l'Irlande. Je pense que j'ai été beaucoup plus influent. Donc, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de terminer premier du groupe et il faut rester concentré. Il y a des choses importantes qui vont arriver. Ah, ça va être un match difficile. Voilà. En 16e de finale, tout est possible.
Dans ce groupe I, le Sénégal s'est lui offert sa première victoire dans ce mondial en dominant l'Irak 5-0 et se qualifie pour la suite. Dans le groupe H, l'Espagne s'est imposée 1-0 devant l'Uruguay à Guadalajara et file en 16e de finale. Le Cap-Vert décroche aussi son ticket grâce à un match nul 0-0 face à l'Arabie Saoudite. Dans le groupe G, la Belgique a battu la Nouvelle-Zélande 5-1 à Vancouver et termine à la première place. Déjà qualifiée pour les 16e, l'Égypte a été accrochée un partout par l'Iran. La Team Melli doit attendre les matchs du jour pour savoir si elle poursuit sa route dans la compétition. Au jeu des probabilités, il y a 85% de chances que l'Iran soit l'adversaire de la Suisse en 16e de finale vendredi prochain. L'Algérie et l'Autriche sont les deux autres adversaires encore possibles pour la Nati. Et 6 matchs sont au programme du jour. Dans le groupe L, l'Angleterre, déjà qualifiée, en découdra avec le Panama, alors que le Ghana, qui tient aussi son ticket, attend la Croatie à 23h, heure suisse. Dans le groupe K, le Portugal, qui est assuré de voir les 16e, se frotte à la Colombie, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan en découdront à 1h30 du matin. Dans le groupe J, la Jordanie défie l'Argentine, déjà qualifiée, alors que l'Algérie en découdra avec l'Autriche la nuit prochaine à 4h du matin. Merci pour votre écoute, belle journée et bon week-end.